La journée nationale des Patriotes s'approche avec le long week-end dans quelques jours. Il est directeur général de la Société historique Pierre de Sorel. On va en parler d'un penchant, d'un acteur influent et important de cette révolte des Patriotes. Je suis très content de le retrouver. D'ailleurs, ça faisait quelques temps, Jeffrey Shinpakwood. Salut, Jeffrey.
Salut, Alex.
Et tu as bien choisi un sujet. Tu sais que je t'ai intéressé beaucoup par tout ce qui entoure les Patriotes, ces acteurs importants. Et celui-là, est-ce que je me trompe? Avec son frère Wilfred, ils sont souvent oubliés, puis pourtant, c'est des acteurs importants et déterminants dans cette révolte des Patriotes.
Ben exactement. On a tendance, quand on s'est tout fait un peu enseigner l'histoire à l'école, on a toujours tendance à parler patriote et associer ça avec Papineau. Mais on oublie que Papineau, c'est le chef du parti patriote, mais c'est pas nécessairement le chef de la rébellion des patriotes. Les chefs des rébellions des patriotes, pour celle de 37, on avait déjà parlé à une chronique antérieure, c'est Wilfred Nelson. Mais pour la partie de la rébellion des patriotes de 1838, c'est son frère Robert Nelson. C'est des personnages excessivement importants qu'on a tendance à mettre de côté, à moins parler. T'sais, on a déjà parlé de cet aspect-là, qu'à une certaine époque, on essaie de créer l'histoire du Québec au début du 20e siècle avec les Lionel Groulx de ce monde. Puis on accorde une plus grande importance aux catholiques de naissance, francophones de naissance, donc Papineau, on met plus l'emphase dessus et un peu moins sur les anglophones, malgré le fait qu'ils sont très intégrés dans la culture francophone, surtout pour Wilfred.
Parce qu'on a comme créé un peu des héros, comme tu dis, avec l'héritage catholique, comme Dollard des Ormeaux, qui était justement célébré dans ce week-end des Patriotes auparavant, là, pour pas fêter la reine, évidemment. Alors là, c'est maintenant justement les Patriotes qui a pris la place à juste titre aussi. Et refaisons un petit peu l'histoire, remontons le temps ensemble, justement, parce que si initialement on les connaît peut-être pour ce qui est justement de cette rébellion, de leur conviction politique pour les frères Nelson, Robert, qui, tout comme Wilfred, a été un médecin influent, puis même, est-ce qu'on peut dire, progressiste dans ses pratiques, tout comme aussi Wilfred?
On pourrait avancer ça. Robert Nelson, dans le fond, juste pour faire son histoire, ses tout débuts, Robert Nelson va naître à Montréal, mais va déménager avec sa famille alors qu'à peine quelques mois à Sorel, William Henry. Donc c'est pour ça qu'on l'associe souvent à Robert Nelson comme étant de Sorel. Lui va faire son éducation à Montréal en médecine et ensuite à Harvard. Et comme son frère, on pourrait presque les qualifier de génies pour leur époque, dans le sens où ils sont très éduqués et très intéressés par l'enseignement de la médecine et la chirurgie. Et Robert Nelson va être reconnu comme un chirurgien vraiment important à cette époque-là. Il va faire plusieurs pratiques comment on pourrait dire?
Est-ce que c'est avant-gardiste pour l'époque, peut-être?
Avant-gardiste, oui. On va l'associer même comme étant le premier médecin à faire une chirurgie aux pierres aux reins au Bas-Canada pour Robert Nelson. Donc, c'est assez impressionnant quand même. C'est quelqu'un de recherché. Il débute sa carrière médicale durant la guerre de 1812 où il va être posté avec les Autochtones qui se battaient avec les Anglais à cette époque-là. Donc, de 1814 jusqu'à 1824, il va être le médecin attitré à plusieurs tribus autochtones, plusieurs communautés autochtones, dont les Iroquois d'Akwesasne, de Kanasatake, mais aussi les Abénakis d'Odanak. C'est à ce moment-là qu'il va développer une réelle passion pour l'histoire et la culture autochtone.
Si son frère, c'était pour les francophones, les Canadiens français, lui, c'était pour les Autochtones, finalement.
Exactement. À cette époque-là, il va développer vraiment cet intérêt-là et cette passion-là. Il va accumuler une immense documentation sur la culture et l'histoire autochtone au Bas-Canada. Et même à une certaine époque, il aurait voulu écrire un livre sur cette histoire-là. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Et à la même époque, il va beaucoup demander au gouverneur général d'être nommé chirurgien majeur pour les Autochtones au Bas-Canada, ce qui va lui être toujours refusé. Si on saute un peu dans l'histoire, après ça, il va s'installer à Montréal et va même devenir député pour le Parti patriote à Montréal en 1827. Il va l'être réélu une autre fois durant les années
1830. Il va siéger avec son frère en même temps?
À la même période, ils vont siéger.
Ensemble?
Bien sûr, on sait que Wilfred Nelson, lui, est député de William Henry.
Oui,
exactement.
De l'époque.
Tandis que Robert Nelson, lui, va être député de Montréal-Ouest. Ils vont l'être jusqu'en 1837. Entre 1837, l'Assemblée est dissoute, c'est la rébellion. Ce qui est fait intéressant pour Robert Nelson, c'est que Robert Nelson ne va pas s'impliquer du tout durant la rébellion de 1837. Pendant que son frère est le chef de la rébellion des Patriotes en 1837.
Il incarne littéralement ce soulèvement, là.
Exactement. Lui, Robert Nelson, il fait sa pratique médicale à Montréal et s'en mêle pas du tout. Mais malheureusement, à cause de son nom, de ses associations, en 1837, il se fait arrêter. Il va juste passer une journée en prison. Il va être libéré. Oui. Mais ça va être assez pour lui créer une forte frustration auprès de le gouvernement britannique. Et va s'implanter dans la rébellion lui aussi. Lui va quitter le Bas-Canada à la fin de 1837 pour aller aux États-Unis pour se protéger. Il va fuir en crainte de représailles. Et c'est là que va commencer un peu la planification de la deuxième phase de la rébellion qui va avoir lieu en 1838. En 1838, au tout début de l'année 1838, dans le fond, il va avoir la rencontre de Middlebury au Vermont pour déterminer un peu la stratégie où il va avoir Papineau, mais il va avoir aussi Robert Nelson qui va être présent. Et c'est là qu'il va y avoir une nouvelle confrontation entre Nelson et Papineau sur la manière de faire. Papineau, lui, est toujours partisan d'y aller un peu plus lentement,
modéré,
d'attendre peut-être du support financier des Américains, tandis que Nelson est un peu plus actif, comme son frère, un peu plus sang chaud.
Il est pragmatique, mettons.
Un peu plus le sang chaud, ouais. Un peu plus actif de ce côté-là. Papineau, malheureusement, ne va jamais réussir à convaincre des investisseurs américains ou à convaincre les Américains de s'implanter. Il va avoir un avis de neutralité et Papineau, à ce moment-là, va complètement abandonner l'idée et va partir en France. Mais Robert Nelson, lui, n'abandonnera pas, va développer la stratégie pour faire une invasion du territoire du Bas-Canada. Et même, c'est à cette époque-là qu'ils vont développer la déclaration d'indépendance du Bas-Canada.
Donc, il serait le premier président ou à peu près?
Exactement. C'est littéralement, c'est même pas à peu près, c'est que la détermination a été faite dans la déclaration d'indépendance. Le premier président de la République du Bas-Canada, c'est Robert Nelson. C'est bien sûr, c'est sur papier seulement. La technique était pour émuler l'indépendance américaine. On fait une déclaration d'indépendance, on nomme un chef de ce côté-là, et on commence la bataille de la Révolution. Malheureusement, cette première tentative qui va avoir lieu en février 37 va être un échec. Il va essayer de rentrer sur le territoire du Bas-Canada avec à peu près 400 hommes, mais la problématique va être toujours l'accès aux armes. Puis à ce moment-là, leur idée, c'est d'aller cambrioler une armurerie aux États-Unis pour s'équiper et traverser la frontière pour s'attaquer. Le groupe d'hommes va être pris vraiment de chaque côté entre la milice américaine au sud et l'armée britannique au nord. Ils vont devoir reculer et finalement, Robert Nelson va être arrêté par les Américains. Il va être relâché sous caution très rapidement. Il va être arrêté parce qu'il a brisé l'acte de neutralité qui avait été déclaré par le président Van Buren à cette époque-là. Mais c'est pas ça qui va arrêter ces tentatives. Il va développer une nouvelle stratégie. C'est à ce moment-là qu'il va participer à la création de ce qu'on a appelé l'Association des Frères Chasseurs, qui est comme une société secrète qui va être vouée à développer des cellules au Bas-Canada pour commencer cette rébellion-là de l'interne, mais aussi d'accumuler des armes un peu partout, à Napierville, même à Sorel, il va en avoir.
Ah oui, OK.
Mais malheureusement, c'est encore une fois, c'est une tentative un peu trop active, un peu trop extrême. Ça va se faire en novembre, le 3 novembre, l'idée de ça. Ils vont rentrer au Bas-Canada. On parle avec 2000 patriotes pour aller vers Napierville. Napierville qui aurait dû être, à ce moment-là, la vision était que ça serait la capitale.
La capitale, ah oui, OK.
Du Bas-Canada. Donc, c'est plus ça aujourd'hui, vision, mais à l'époque, c'était un peu ça. Et dans le fond, Robert Nelson, avec les troupes, va aller à Napierville. Malheureusement, il va avoir des problématiques au niveau de la colle où les armes américaines ne vont pas réussir à s'en venir. Et Robert Nelson va s'en aller avec les troupes à la colle où il va avoir la bataille d'Odletown, qui est aujourd'hui la colle. Et c'est là qu'il va avoir un nouvel échec majeur et qu'il va falloir avoir un repli complet de la bataille. Ils vont être écrasés. Et Robert Nelson, à ce moment-là, va s'enfuir aux États-Unis.
Et qu'est-ce qui advient de Robert Nelson par la suite, là, jusqu'à la fin de sa vie?
Ce qui est triste un peu, contrairement à son frère qui va revenir, lui, après avoir été exilé au Canada, va s'impliquer de toutes sortes de manières en politique. Robert Nelson, lui, ne reviendra jamais. Il va rester aux États-Unis, il va partir en premier en Californie, durant la ruée vers l'or, va essayer de faire fortune. Même on dit qu'à une certaine époque, il avait réussi à accumuler beaucoup d'argent, mais malheureusement, il va se faire flouer et va tout perdre et va aller se réinstaller un peu plus tard dans l'État de New York, à New York, à Staten Island, où il va faire sa pratique de médecine. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'écrits qui restent sur lui, à part le fait qu'on sait qu'il a publié certains papiers en médecine durant sa carrière, mais il va avoir une vie assez tranquille, je pense un peu amère, déçu un peu de les ambitions politiques qu'il y avait pour le Bas-Canada, puis un peu la tournure des événements. Il va vraiment vivre une vie calme. Il va décéder à Staten Island en 1873. Il y a toujours aujourd'hui un débat, une discussion de savoir il est enterré où. On sait qu'il y a eu des obsèques à Staten Island. Il y a des gens qui argumentent qu'il est toujours enterré à Staten Island. Il y a d'autres qui vont argumenter qu'il est au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, ou du moins qu'il y a un monument, qu'il y a eu un monument en à Notre-Dame-des-Neiges, parce qu'on retrouve dans le registre de Notre-Dame-des-Neiges un Robert Nelson décédé en 1873. Malheureusement, le monument n'est plus là aujourd'hui. Donc, est-il enterré à Montréal? Est-il enterré à Staten Island? C'est encore compliqué comme débat. On sait que son frère Wilfred Nelson, lui, est enterré à Sorel, mais Robert Nelson ne l'est pas, lui. Il s'est un peu disparu, comme un peu son histoire après la rébellion de 38. La fin aussi, c'est une disparition de ce côté-là. Mais ça reste tout de même un personnage excessivement passionnant, excessivement intéressant, qui a eu un impact à une certaine époque dans la politique des débuts de l'histoire du Québec, dans le fond.
Donc, ni plus ni moins que, finalement, un médecin influent, un politicien, on pourrait même continuer, un chercheur, en quelque sorte, pour développer des nouvelles techniques aussi sur le plan de la médecine. Donc, c'est un des, disons, on peut dire, des gens influents du 19e siècle à cette époque-là. Là.
À cette époque-là, oui. On parle des années 1820, 1830. Ouais. Les frères Nelson et Robert Nelson ont un impact au niveau politique, au niveau médical au Bas-Canada. C'est sûr qu'après ça, il va être moins influent, comme on dit, mais tu sais, ça reste un personnage majeur des premiers temps de l'histoire, on va dire, l'histoire d'émancipation du Québec, comme on aime en parler beaucoup aujourd'hui.
Oui, ben oui, c'est ça. Et du fait qu'on est... puis on peut l'avancer, je pense, une société distincte, quoi qu'on en dise. et je pourrais continuer à citer Robert Bourassa.
Oui, je vois ça.
Qui a des racines avec sa conjointe, bien sûr, bien sorelloise.
Oui,
oui, exactement. Mais c'est ça, donc, qu'on soit nationaliste ou souverainiste, peu importe notre allégeance, je pense que c'est aussi de ces hommes-là qu'on peut dire maintenant qu'il y a une société distincte également, ni plus ni moins, et qu'on doit honorer, peut-être, avoir une pensée aussi avec l'approche de cette Journée nationale des Patriotes. Il y a toujours le musée aussi à Saint-Denis qui est là.
Exactement, oui. Il y a toujours le Musée national des Patriotes à Saint-Denis.
Qui est une belle occasion de découvrir ces héros-là. Puis j'imagine qu'on y va quand même d'un grand pan de notre histoire au sein du musée de Robert Nelson et de Wilfred Nelson. On doit consacrer de grands... Et je me promets d'aller le visiter. Moi, ça fait un an que je le dis. Il va falloir que je le fasse là, bientôt. Là. Parce que tout le monde me dit que c'est un beau musée. Et qu'on se doit d'y aller là, pour comprendre notre histoire. Là.
Exactement. C'est une belle place à aller visiter.
Ben, merci beaucoup. On peut consulter vos plateformes parce que vous avez plein de documents, j'imagine, liés à ce qu'on vient de raconter un peu.
Oui, on a de la documentation sur l'époque de la rébellion qui concerne la région de Sorel, de William Henry. Donc, on peut consulter aussi nos plateformes sur notre page Facebook, notre site internet shps.qc.ca ou directement venir nous voir sur la rue Saint-Pierre à regard sur le fleuve. On peut discuter d'histoire.
Avec grand bonheur, toujours un plaisir de justement quand t'es question de jaser d'histoire, de toutes sortes de considérations avec ton savoir-faire, Jeffrey. Alors, merci beaucoup d'être passé à notre micro, puis bonne Journée nationale des Patriotes à toi.
Merci à toi aussi.